Vous écoutez bien RFI, Radio France Internationale, et je vous en remercie. Il est 2h à Paris, 5h à Bakou.
Mathis Limano.
La COP29 en Azerbaïdjan vient de s'achever après 2 semaines d'âpres négociations. Accord trouvé dans la douleur. 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035. Une somme à destination des pays en développement pour assurer leur transition climatique, mais bien en deçà des besoins, dérisoires même pour l'Inde. On écoute sa représentante en début de journal. Au Proche-Orient, la guerre se poursuit sans relâche. Au Liban comme à Gaza, dans l'enclave, 120 personnes sont mortes ces dernières 48 heures. Et puis en France, journée de manifestation contre les violences faites aux femmes, mobilisation également en Italie, reportage dans le cortège à Rome en fin d'édition. Le coup de marteau a retenti à la COP29 à Bakou. Accord trouvé dans la douleur, je vous le disais, à l'issue de 2 semaines de négociations houleuses. Les pays du monde entier ont approuvé un accord à 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035. Une somme vers des pays en développement pour qu'ils affrontent l'urgence climatique, des pays qui se sont résignés à accepter cet engagement. À l'image de la déléguée indienne lors de la plénière de conclusion de la COP29, cette déléguée a dénoncé c'est le fait que la présidence azerbaïdjanaise lui a refusé la parole avant l'approbation finale du texte. Elle n'a pu exprimer son mécontentement qu'après le coup de marteau. On l'écoute.
Nous sommes déçus de cette issue qui met clairement en évidence le manque de volonté des pays développés à assumer leurs responsabilités. L'objectif est trop bas, il est à trop longue échéance. 2035, c'est trop loin. Selon nos estimations, nous avons besoin de 1300 milliards de dollars par an d'ici 2030. Mais nous avons une proposition qui pose comme objectif de mobiliser 300 milliards de dollars. C'est une somme dérisoire. Ce n'est pas quelque chose qui permettra une action climatique favorable, nécessaire pour la survie de nos pays et pour la croissance des revenus de nos populations. Je suis désolée de dire que nous ne pouvons pas l'accepter. Et compter les fonds mobilisés à travers les banques multilatérales de développement dans l'objectif global, ce n'est pas une progression de l'objectif de 100 milliards. C'est un détournement de la responsabilité des pays développés vers des pays en développement actionnaires des banques multilatérales de développement. Je regrette de dire que ce document n'est rien d'autre qu'une illusion d'optique. Nous estimons que cela ne permettra pas de relever l'immensité du défi auquel nous sommes tous confrontés. Par conséquent, nous nous opposons à l'adoption de ce document. Nous nous opposons à l'adoption de ce document. L'Inde s'oppose à l'adoption de ce document.
Voilà, on l'écoutait, la déléguée indienne à la COP29. Sentiment partagé par les représentants des pays les plus pauvres qui dénoncent le manque d'ambition de l'accord. Un engagement trop faible et trop tardif, regrette le groupe africain. Tandis que pour le chef de l'ONU Climat, ce n'est pas l'heure de faire des tours d'honneur. L'effacement des dettes pour les Russes qui s'engagent pour combattre en Ukraine. Cette loi, signée ce samedi par Vladimir Poutine, permet d'effacer jusqu'à 92 000 euros de dettes en échange d'un service d'un an dans l'armée. Une mesure considérée par les experts comme fortement incitative alors que la Russie est en recherche permanente de volontaires. Moscou, qui peut déjà compter sur les 10 000 soldats nord-coréens prêts à combattre dans la région russe de Koursk, selon les renseignements américains, région en partie sous contrôle de Kiev. La guerre qui se poursuit aussi et qui ne faiblit pas au Proche-Orient, à Gaza comme au Liban. Les bombardements israéliens font rage dans l'enclave. Des sources médicales font état d'au moins 120 Palestiniens tués ces 48 dernières heures. Le point avec Oriane Verdier.
Un hôpital aurait notamment été touché dans le nord de l'enclave, blessant du personnel médical et des équipements ce samedi. Parmi les morts figurent 7 membres d'une même famille dont la maison a été touchée pendant la nuit dans la ville de Gaza, ont rapporté des sources médicales à l'agence France Presse. D'autres personnes ont été tuées dans le centre et le sud de l'enclave. Des témoins sur place décrivent une augmentation des bombardements dans le centre de Gaza, en effet, particulièrement sur le camp de réfugiés de Nusayrat, où une mosquée aurait été touchée. Le Hamas a averti hier que les hôpitaux toujours en état de fonctionner seraient contraints de cesser leur activité faute d'essence pour alimenter les groupes électrogènes qui fournissent l'électricité. L'essence, comme l'aide humanitaire, n'entre qu'au compte-gouttes dans l'enclave coupée du monde par l'armée israélienne. Cet isolement rend également très compliqué l'évaluation concrète de la situation sur place pour les journalistes et observateurs internationaux. L'offensive israélienne a fait plus de 44 000 morts, en majorité des civils à Gaza depuis le 7 7 octobre 2023 selon le ministère de la Santé du Hamas, mais certains experts estiment que le nombre de morts pourrait en réalité s'élever à plus de 100 000 personnes.
Oriane Verdier et cette annonce du Hamas, une otage a été tuée dans le nord de Gaza, enlevée par la branche armée du mouvement. Le 7 octobre, cette femme est morte dans une zone d'opération de l'armée israélienne, indique le Hamas. Son identité n'a pas été révélée alors que 97 otages sont encore détenus dans la bande de Gaza. Vive inquiétude au sujet des nouvelles centrifugeuses avancées annoncées par Téhéran. Centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium. Ces nouvelles installations s'inscrivent dans le programme nucléaire iranien et elles inquiètent Washington, Paris, Londres et Berlin. Cette annonce de nouvelles centrifugeuses est en réponse à une résolution adoptée jeudi sur le nucléaire iranien. Résolution symbolique mais très critique qui appelle Téhéran à ses obligations légales. Top départ pour un marathon électoral en Roumanie, à commencer par le premier tour de la présidentielle ce dimanche. 14 candidats, mais un duel se dessine déjà pour le second tour, selon les sondages. Le premier ministre Marcel Ciolacu, 56 ans, président du Parti social-démocrate, principale formation du pays, et le populiste Georges Simion, 38 ans, chef de l'extrême droite roumaine. Avant le second tour, dans deux semaines, les Roumains doivent aussi élire leurs députés dimanche prochain lors d'un unique tour. À quelques encablures de là, en Pologne, on connaît déjà le nom du candidat du camp présidentiel pour l'élection suprême en mai prochain. Et c'est Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, qui représentera la coalition civique à la présidentielle. Sa victoire serait synonyme de réforme libérale bloquée par l'actuel président et le retour de l'état de droit. Les explications d'Adrien Sarla.
Avec 74,2% des voix, le candidat de la coalition civique à l'élection présidentielle sera Rafał Trzaskowski.
Il est l'homme sur qui reposent tous les espoirs de changement. S'il parvient à se faire élire en mai prochain, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, pourrait bien libéraliser le visage de la Pologne. Réputé europhile et progressiste, le candidat élu espère prendre sa revanche sur sa défaite qui s'était jouée à un fil lors des présidentielles de 2020.
Je suis convaincu que nous ressortons tous renforcés de cette primaire. Elle me confère une forte légitimité, beaucoup d'énergie, de détermination et de courage pour battre le PiS.
Même si le chef de l'État n'a qu'un rôle limité en Pologne, l'élection de Trzaskowski mettrait fin au blocage d'Andrzej Duda, car pour l'instant, le président oppose son veto systématique aux réformes libérales du gouvernement Tusk. L'identité des autres candidats n'est pas encore connue, mais toutes les projections convergent déjà pour donner Trzaskowski vainqueur en mai prochain. Adrien Sarla, Varsovie. RFI.
Un métro toutes les 2 minutes, un viol toutes les 7 minutes. L'une des pancartes ce samedi dans le cortège parisien. À l'appel d'organisations et de personnalités comme la chanteuse Angèle et l'actrice Juliette Gaudrech, 100 000 personnes ont défilé partout en France selon les organisateurs. Manifestation également de l'autre côté des Alpes à l'appel du collectif féministe italien Non Una Di Meno, comprenez, pas une de moins. Des dizaines de milliers de personnes de tous âges et de tous horizons ont défilé à Rome en scandant ce slogan « Désarmons le patriarcat ». Dans le cortège romain, une Française, Chloé Menant, 30 ans, elle vit à Bologne et elle juge les mesures du gouvernement Meloni pour vaincre les violences contre les femmes totalement insuffisantes. Depuis janvier 2024, l'Italie compte 106 féminicides. On écoute cette manifestante.
Là où on devrait agir, c'est sur la prévention, donc sur l'éducation à l'école, avoir des agents de police formés sur les violences faites aux femmes pour qu'elles puissent se tourner vers eux en se sentant en pleine confiance. On veut lutter contre un gouvernement qui coupe de plus en plus les fonds qui vont au centre anti-violence. Il y a une réelle discrimination. Récemment, le ministre de l'Éducation, dans un discours, a minimisé l'importance du patriarcat en disant qu'il avait été aboli grâce à une loi de 1975. Comme si une loi était suffisante pour abolir tout un système sur lequel se fonde la société. Et dans ce même discours, il a tenu à lier les féminicides et les violences faites aux femmes aux populations immigrées illégalement en Italie, alors que les violences sont perpétrées beaucoup plus par les Italiens que par les populations immigrées. Des affirmations qui malheureusement ont été soutenues par tous les membres du gouvernement, y compris par Giorgia Meloni, qui est la première chef de gouvernement italienne femme.
Les images sont impressionnantes. Une sangle tendue entre deux montgolfières à 4832 mètres d'altitude et un homme, Julien Roux, qui traverse. Ça s'appelle du Highline. C'était il y a une dizaine de jours, nous apprend Le Figaro. Un exploit spectaculaire qui fait rentrer le Français dans le Guinness Book des records. Vous écoutez bien RFI, il est 2h10 à Paris. Bonne suite des